Talent féminin singulier. Une émission où les Ardennaises sont à l'honneur. Entre rêves aboutis, projets rondement menés et parcours semés d'embûches, découvrez le destin de ces femmes qui ont des choses à dire et à faire. Rendez-vous avec Carole tous les troisièmes samedis du mois de 11h à midi sur Bouton.
Que faire de l'énergie que je perds ?
Bonjour les amis, c'est la rentrée. Je suis particulièrement contente de vous retrouver en pleine forme évidemment. J'ai choisi pour cette première de la saison de Talent Féminin Singulier de vous emmener ou de vous réemmener, je ne parle pas très bien français là, pour prendre l'air en fait. Et j'ai le plaisir pour ça de recevoir Juliette Chéry-Kinor. Bonjour Juliette.
Bonjour à tous et toutes.
Voilà, donc Juliette, ce n'est pas une cliente facile, hein, je vous préviens. Enfin, surtout pour moi, pour l'intervieweuse. Juliette a un parcours atypique, multicarte. Et donc, je vais tenter une toute première définition. Et je vais dire que Juliette est une passeuse de nature. Est-ce que ça vous convient, Juliette, comme
ça
première
convient.
Définition ?
Ça convient, puisque ça fait référence à mon métier de base, le premier métier que j'ai exercé, que j'exerce encore, le métier d'animatrice nature.
Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus de ça, animatrice nature ?
Animatrice nature, c'est faire découvrir la nature au public.
Oui.
Soit pour les rendre plus sensibles, peut-être plus engagés, plus écolos, mais aussi, et c'est la façon dont je pratique moi, c'est aussi parce que la nature, ça leur permet de se découvrir, ça leur permet d'évoluer, de se transformer.
D'accord. Alors c'est un thème dont on parle beaucoup en ce moment, mais au-delà de l'effet qu'on pourrait appeler l'effet de mode, ça fait quelques années que vous pratiquez.
Oui, comme c'est le premier métier que j'ai effectué, j'ai commencé toute jeune, à 17 ans. Donc ça fait 25 ans maintenant, avec des enfants, des ados, des adultes.
Oui. Bon, il y a une actualité toute fraîche, hein, puisqu'on s'est parlé là ces derniers jours, et on va peut-être commencer par cette petite annonce là. Vous avez eu le plaisir d'avoir une réponse positive pour installer un cabinet d'art thérapeute à Rethel, c'est ça ?
Oui, parce que j'ai appris un nouveau métier, ça a été une évolution pour moi, et donc je suis art thérapeute,
ouais.
Et je m'installe effectivement à partir de l'automne, là, du mois d'octobre,
oui.
À Rethel, dans le quartier de la gare, où j'aurai mon cabinet atelier d'art thérapeute.
D'accord, donc on pourra vous retrouver en cherchant bien en face de la gare,
oui,
avec vos coordonnées, Facebook, etc.
Je communique sur les réseaux, sur Internet.
D'accord. Bon, on va peut-être définir quand même pour nos auditeurs et auditrices ce que c'est que l'art-thérapie.
Alors, l'art-thérapie, c'est une pratique d'accompagnement des personnes qui se base sur le processus de création. L'idée, c'est d'amener la personne à créer par différents biais. Ça peut être les arts plastiques, l'écriture, le théâtre.
Oui.
L'accompagner parce que ça fait tiers, le média artistique peut faire tiers, peut favoriser la relation.
C'est ça.
L'art-thérapie, on ne peut pas vraiment dire, en tout cas, ce n'est pas mon point de vue, on ne peut pas dire que ça soigne ou que ça guérisse, mais ça accompagne la personne qui est peut-être malade, peut-être en situation de crise, peut-être en difficulté d'intégration, peut-être même une crise existentielle à un moment de sa vie.
Donc dans art-thérapie, il y a deux choses, effectivement, il y a thérapie. On peut peut-être résumer à plus à la relation d'aide qu'à
c'est
la thérapie.
La relation d'aide, l'accompagnement. L'idée, c'est pas de soigner, mais c'est quand même d'amener la personne à prendre soin d'elle, à prendre soin des autres.
Ouais.
Voilà. Et souvent, c'est quand même en accompagnement. Si la personne est gravement malade, ça peut être en accompagnement de traitements plus classiques à l'hôpital et autres.
C'est ça.
Voilà. Ça vient. Par exemple, pour les personnes touchées par le cancer, ça peut faire partie de ce qu'on appelle les soins de support.
C'est
la même façon qu'il peut y avoir du qigong, du yoga, de la sophrologie. Il peut y avoir de l'art-thérapie aussi.
Et ça permet aussi de découvrir ses propres ressources, puisque dans l'art-thérapie, il y a art aussi.
Alors, se découvrir, au sens large, découvrir ses ressources. Alors, l'art-thérapie, ce n'est pas des cours d'art, mais en revanche, on se découvre, on va connecter son élan vital aussi, très souvent. Cette espèce de chose qui est en soi, depuis qu'on est enfant, qu'on a parfois oublié, qui est liée au jeu, à la création et au goût de la vie. Donc, ça peut être aussi reconnecter ce goût de la vie par... En peignant, en faisant le clown, en faisant de la danse.
Mmh. Justement, art-thérapeute, moi j'en connais qui ont une, on va dire, un média particulier, un médium particulier. Hein. Est-ce que vous avez un médium particulier ou c'est multicarte ?
Ça serait plutôt multicarte, même si souvent on m'associe plutôt à l'écriture ou bien au travail de la terre, de l'argile. Mm-hmm. Je suis plutôt multicarte. L'idée, c'est aussi que la personne qui va venir me voir, les personnes peuvent être multicartes elles-mêmes. Si moi, j'impose l'écriture alors qu'elles s'y retrouvent plus avec la terre ou avec la danse ou autre. Mm-hmm. Donc, c'est cette idée. Puis, on pratique aussi ce qu'on appelle dans mon école de formation des ateliers combinatoires. Mmh. Où la personne, elle entre dans un atelier, ou bien nous, art-thérapeutes, amenons tout un tas de médiums, de matériaux, de matériel, et la personne va choisir, en fonction de son état du jour, de l'émotion qu'elle a envie de travailler, eh bien, soit de peindre, de travailler de la terre, de se déguiser. Voilà,
c'est-à-dire qu'on arrive dans l'atelier et qu'on ouvre une valise.
Il y a cette idée, dans l'atelier, il y a plein de choses qui sont visibles et à disposition, un djembé quelque part, de la peinture, et la personne va aller choisir. Ou bien c'est nous, en fonction de l'humeur de la personne, de ce qu'elle a envie de travailler, on va dire, tiens, aujourd'hui, ça serait intéressant de travailler avec de la terre. Donc, mm-hmm. on va mettre de la terre à disposition.
Mm-hmm. C'est pas un peu effrayant ?
Ça peut être effrayant pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de créer ou mm-hmm. qui associent. C'est vrai que très rapidement, il y a des gens qui vont associer, notamment dans art-thérapie, ce mot art mm-hmm. Au dessin et peut-être à un mauvais vécu d'enfant, mm-hmm. je ne sais pas dessiner. Après, il y a un accompagnement verbal. En tout cas, dans ma pratique à moi, il y a aussi de la relation d'aide, un accompagnement verbal. Et puis, l'idée, c'est pas de se surpasser. C'est souvent les œuvres d'art sont pas destinées forcément à être montrées à l'extérieur, à être socialisées. C'est quelque chose qui se joue entre le thérapeute et la personne accompagnée. Donc, mm-hmm. ça baisse les enjeux aussi.
Mm-hmm. Bien sûr, bien sûr. On va faire une petite première pause musicale qui va nous permettre ensuite, on en reparlera Juliette, hein, de poser un peu votre paysage intime et allez, allons-y, votre roman familial. Là. Hein? On y va, on commence par ce premier morceau. ربي حيفظ السباب الناس طول سباي العمر لا بواس يوم ذي فريع ومضبور حس بغذا يزري في قرى ربي حيفظ السباب الناس ربي حيفظ السباب يوم ذا يفرع وما ظهر حسب غذا merci Juliette de nous avoir permis d'écouter cette voix magnifique. Hein. C'est une musique traditionnelle des Aurès. Donc il s'agissait de Ouria Aïchi, qui est une star de la musique traditionnelle algérienne, hein, c'est bien ça, et d'un extrait des Cavaliers de l'Aurès. Alors qu'est-ce que ça dit de vous, cette musique, Juliette?
Déjà, peut-être ça dit mon rapport à la musique et aux musiques du monde, mais surtout ça dit aussi mes origines, une mm-hmm. partie de mes origines. Souvent, on m'interroge sur mon nom de famille. C'est le nom de mon père accolé ensuite à celui de ma mère. Et donc, Chériki me vient bien de l'Algérie. Mm-hmm. Mes grands-parents paternels, les parents de mon père, étaient d'Oran et habitaient probablement en Algérie. Enfin, mes ancêtres habitaient en Algérie, en tout cas au Maghreb, depuis au moins 500 ans. Et ils ont été chassés d'Espagne par les rois catholiques, mm-hmm. voilà, au temps où les musulmans et les juifs ne devaient plus côtoyer les catholiques en Espagne. Mm-hmm. Donc ça dit mes origines, même si mes origines ne sont pas des Aurès, comme le pays d'Ouria Aïchi. Moi, c'était plutôt donc la partie d'Oran. Nous ne sommes pas musulmanes non plus, ne sont pas berbères, mais voilà, d'un peuple qui a quand même vécu plus de 500 ans sur les terres du Maghreb.
Mm-hmm. Donc, on peut dire deux mots de votre couple parental, parce qu'on en a parlé un petit peu avant d'enregistrer cette émission. Hein, papa.
Donc, mon père, très syndiqué, et donc fils d'immigrés algériens. Ouais. Et puis, ma mère, qui travaillait tous les deux à la caisse d'allocation familiale, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés.
Ouais.
Ma mère, elle était la fille d'un réfugié espagnol, républicain, communiste,
ouais.
qui est arrivé en France, qui a traversé les Pyrénées à pied ouais. en 1939, et puis qui est arrivé avec pas moins de, on estime, hein, 500 000 demandeurs ouais. d'asile, ouais. quelque ouais. part, ouais. Réfugiés espagnols dans ouais. ces années-là.
Oui, oui. Ça fait réfléchir aujourd'hui.
Oui, hein.
Oui. Donc c'est un joli bagage, on va dire.
Oui, ça fait un métissage culturel, ça oriente aussi forcément les questions existentielles sur la vie, sur le fait de bouger, sur ce qui oriente aussi la naissance. Moi, je me disais parfois, j'ai la chance d'être née en France, et je me dis parfois, mais zut, si Franco avait perdu
exact.
La guerre d'Espagne, je ne serais pas là.
Exactement. Mmh.
Donc
exactement.
Finalement, tous ces événements historiques et politiques influent et décident du parcours des personnes et de la naissance de personnes comme moi.
Et ça construit une histoire humaine.
Hein, ça construit, ça oriente forcément. Il y a souvent, moi, je pense que l'exil et la diaspora qui ont mmh. touché mes ancêtres, en fait, m'influencent aussi beaucoup encore aujourd'hui sur des questionnements, sur parfois aussi, est-ce que je suis légitime à tel endroit?
Oui, absolument. Et votre petite enfance se passe à Paris, hein?
Oui.
Oui.
Dans le 15e arrondissement, dans une cité HLM, à la limite du 92.
Oui.
À courir les rues, à courir le parc près de chez moi. J'ai passé beaucoup de temps dehors à jouer, parce que c'est là que j'étais bien, dans la rue, à jouer avec les amis, à jouer avec la nature.
Premier rapport avec la nature à Paris, dans le 15e arrondissement.
C'est ça. C'était d'où l'importance quand même qu'il y ait des parcs et des espaces verts en ville. Mm-hmm. Il y avait un grand parc en face de chez moi. C'est là que se trouvait mon école maternelle, puis mon école primaire.
Oui.
Et donc, j'y ai passé beaucoup de temps à l'abri des voitures.
À l'abri des voitures, à
oui.
l'époque.
Mm-hmm.
Hein? Ce qui n'est peut-être plus le cas
c'est
forcément aujourd'hui.
Le parc existe toujours tel quel.
Le parc existe mm-hmm. toujours tel quel. D'accord. Et alors, vous avez publié aux éditions L'Harmattan... C'est une publication collective. Hein,
c'est ça, oui.
Hein, ça s'appelle Dehors et c'est une somme de récits éco-biographiques, on peut dire ça.
C'est
comme ça. Et y a un petit mot fondateur pour moi qui a retenu mon attention, c'est que vous racontez que vous laissez sur la table de la cuisine à destination de votre maman. Elle s'appelle Paquita, votre maman.
C'est ça, Paquita. C'est son surnom. Enfin,
c'est son surnom. Ouais. Donc, à l'attention de Paquita, vous laissez un petit mot. Je suis allée jouer dehors. Alors, c'est vrai que je suis allée jouer dehors. C'est pas forcément le destin des petites filles. Je suis allée jouer dehors.
Et oui, et c'est pour ça que moi j'avais ce besoin-là. Je pouvais pas imaginer de rester enfermée à jouer à la poupée ou à d'autres choses, mais surtout ce fait de rester enfermée.
Ouais.
J'avais besoin d'extérieur et c'est vrai qu'on a souvent tendance à garder les filles et les femmes plutôt à la maison et à laisser la possibilité aux garçons d'aller jouer dehors. Mais moi, je suis allée jouer dehors.
Donc, avec les garçons?
Avec les garçons, avec des filles aussi,
ouais.
ou parfois toutes seules, s'il n'y avait personne dans la rue à ce moment-là.
De nos lectures communes, je retiens aussi le passage de La chambre à soi. Ça parlera certainement à certaines de nos auditrices, de Virginia Woolf, à ce que vous relevez comme le dehors partagé. Hein, c'est un petit peu le credo, le dehors partagé.
Oui, parce que la vocation d'animation nature est née. Au tout début, c'était quelque chose d'assez égocentré, comme beaucoup les enfants, le rapport à la nature. Et puis, je me suis mise à le partager avec d'autres en faisant un métier, en faisant le métier d'animatrice nature.
Oui. Donc, comment on fait le passage d'un square du 15e arrondissement de Paris aux Ardennes ?
Eh bien, j'étais encore enfant, adolescente, et j'ai eu la possibilité d'aller suivre un camp nature. Un séjour de vacances, c'était une randonnée itinérante en Argonne avec le Centre d'initiation à la nature de Boultobois.
Donc c'est
comme ça que je découvre les Ardennes en 1990 précisément.
En 1990. Et pour y être passé cet été, en 2019, Boultobois, c'est encore une référence
par rapport à
ces thématiques.
Hein. Ça reste une référence, il y a eu des mouvements, il y a des structures qui ont disparu, d'autres qui sont nées, qui se sont transformées. Mais ça reste un village où il y a beaucoup de structures d'initiation, d'éducation à la nature. Et puis, un village aussi où il y a beaucoup d'initiatives, beaucoup d'acteurs
de créateurs, d'artisans.
C'est ça, des artistes, des artisans.
Oui,
il y a beaucoup de liens sociaux qui se font entre les habitants, de projets, de plein de choses qui sont partagées. Apprendre la vannerie, faire une bourse aux plantes.
Oui, je conseille à tout le monde d'aller faire un tour à Boultobois un week-end. Il y a une jolie promenade artistique aussi. C'est vraiment un village intéressant avec une belle dynamique. Donc là, vous avez quel statut à Boultobois, Juliette ?
Alors, quand je travaillais à Boultobois, j'étais salariée en CDI, animatrice nature auprès du Centre d'initiation à la nature.
D'accord. Donc, comment ça évolue ? Parce qu'on a évoqué tout à l'heure votre nouveau métier, disiez-vous, d'art thérapeute. Institutionnellement, structurellement, comment on se positionne ? Est-ce que c'est un métier déjà ? Est-ce que c'est reconnu comme un métier ?
Alors, l'art-thérapie, ça peut être une fonction, ça peut être un métier. Il y en a qui en font un métier à part entière.
Mm-hmm.
Et il y en a qui font de l'art-thérapie dans leur métier.
Mm-hmm.
Je pense à des psychologues, par exemple, qui peuvent utiliser l'art-thérapie, ou des infirmiers dans le domaine psychiatrique, voire des ergothérapeutes.
Mm-hmm.
J'ai des amis aussi qui sont éducatrices spécialisées, assistantes sociales, qui vont aussi pratiquer l'art-thérapie dans leur métier.
Comme un outil.
Comme un outil, comme une pratique, qui va accompagner les personnes. Et puis, on peut choisir d'en faire un métier à part entière. Et après, plusieurs statuts se présentent, puisqu'il y a des postes dans le milieu institutionnel, des postes salariés pour des art-thérapeutes. Il y a des art-thérapeutes qui choisissent d'exercer en libéral et, par exemple, en auto-entrepreneur ou en entreprise individuelle.
Mmh.
Et puis, d'autres, peut-être un peu moins, mais c'est, dans le monde du travail aujourd'hui, dans l'évolution du monde du travail, quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est d'être salarié, entrepreneur d'une coopérative d'activité et d'emploi.
Donc ça, c'est une notion qui est, je pense, pas très, très connue. Ça serait bien de s'y attarder un peu. Hein, vous pouvez expliquer un peu ce que c'est que ce statut-là ?
Une coopérative d'activité et d'emploi, alors très souvent, elles sont plus connues un peu sous l'idée d'une pépinière d'entreprise où des personnes qui ont un projet d'entrepreneur vont aller d'abord tester. Donc, c'est le cas de certaines personnes. Mais la coopérative dont je fais partie, moi, et d'autres encore en France, en Belgique et partout, c'est un vrai choix de travailler en étant coopérateur d'autres personnes. Alors, il y a des avantages, notamment les avantages, c'est qu'on a un statut de salarié. L'autre avantage, c'est qu'on fonctionne comme un travailleur indépendant, donc ce qui est très important pour moi qui suis électron libre. Donc, je suis la maîtresse de mon travail, je décide avec qui je veux travailler, quand je veux travailler, donc, comme un auto-entrepreneur, mais avec l'avantage d'être salarié. Et puis également, dans la coopérative où j'exerce, moi, il y a 250 personnes. Ça peut sembler beaucoup, mais ça reste quand même une petite coopérative. Il y en a d'autres, ça se compte en milliers. 100 métiers différents, mais des actions de coopération. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, à l'intérieur de la coopérative, de se former, de s'auto-former, de répondre ensemble à des marchés publics, de développer des produits en commun. Donc, c'est la valeur coopération qui est là.
C'est ça. Donc, ce qu'il faut bien entendre, c'est qu'il ne s'agit pas de 250 art-thérapeutes qui se réunissent, mais 250 métiers différents qui peuvent travailler sur un projet commun et s'investir sur un projet commun. C'est bien ça ?
Voilà.
Et est-ce qu'il y a une unité de lieu ? Ou est-ce que c'est éclaté ?
Il n'y a pas d'unité de lieu. Il y a des gens qui sont répartis partout en France. Et puis, il y a certaines régions. Alors, la région de cette coopérative qui s'appelle Oxalis, sa région de naissance, c'est Rhône-Alpes, c'est la Savoie. Donc, il y a pas mal de personnes en Rhône-Alpes. Et puis, il y a des endroits en France où en Limousin ou dans l'Ouest, où il y a des groupes qui se développent, parce qu'ils sont plus nombreux là-bas. Moi, je suis un peu, encore une fois, un électron libre ici, dans les Ardennes, mais je suis rattachée à cette coopérative-là.
Et vous communiquez, vous vous rencontrez, vous avez des temps de travail communs?
Alors, annuellement, il y a une rencontre dans le sud de la France qui a réuni, par exemple, là, il y a quelques jours, environ 300 personnes, là, qui faisaient partie de ma coopérative, mais d'autres coopératives de France, de Belgique et d'Espagne. Donc l'idée, c'est de rencontrer les personnes, de voir s'il y a des projets communs qui peuvent être portés, et puis aussi de mutualiser des connaissances, des compétences, des savoirs.
Est-ce que ça permet néanmoins de répondre, par exemple, à un appel d'offres d'une collectivité territoriale quand on est dispersé à ce point géographiquement?
Oui, c'est possible, parce que maintenant, il y a Internet, il y a Skype, il y a pas mal de choses pour communiquer. Et puis, il y a plein d'outils collaboratifs sur Internet qui permettent de travailler ensemble, même à distance.
D'accord. Bon, ça, c'est vraiment une information intéressante à retenir, parce que je pense qu'elle n'est pas forcément très, très connue ni très valorisée. Est-ce que Pôle emploi en parle, par exemple?
Ben non, je suis encore adhérente à Pôle emploi. Et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises avec mes conseillers d'évoquer ce statut, et il est très, très souvent inconnu, en fait.
Ils ne le connaissent pas.
On connaît le statut salarié, on connaît le statut de créateur d'une entreprise individuelle ou auto-entrepreneur. Ouais. Et ce côté coopératif, non, il n'est pas encore assez connu. Ou alors, on a l'impression que c'est quelque chose de très ponctuel, voilà, comme la pépinière d'entreprise dont je viens de parler.
Oui.
Donc, c'est des valeurs à développer. Et moi, j'ai vécu un licenciement économique du Centre d'initiation de la nature de Boutte-aux-Bois. Beaucoup de mes amis un peu partout en France ont été aussi licenciés. Et beaucoup, aujourd'hui, travaillent en coopérative. Donc, pour moi, c'est la crise du monde associatif. Il n'y a plus beaucoup de subventions, il n'y a plus beaucoup de bénévoles. Et donc, ce nouveau statut qui reste du monde de l'économie sociale et solidaire, ce n'est pas une entreprise classique qui cherche à faire du profit avant tout. Bon, on est quand même là pour faire un profit et pour gagner notre vie. Mais en même temps, on reste dans cette logique d'économie sociale et solidaire. Et c'est quelque chose dans lequel, on va dire, les victimes de la crise associative se retrouvent.
Donc, on aura bien compris que c'est pas un statut dont on fait la promotion, mais qui existe et dont il va falloir aller chercher les informations pour pouvoir éventuellement le vivre et le répandre. Et voilà,
hein. Surtout que ça permet d'exercer des métiers très variés. On peut être boulanger, on peut être formateur, on peut être prof de yoga, on peut être graphiste, on peut être consultant, enfin vraiment tout plein de métiers, voire, et c'est aussi l'avantage, c'est qu'on peut faire plusieurs métiers, être pluriactif et pouvoir développer cette pluriactivité-là au sein de coopératives.
C'est ça. Bon, c'est super intéressant comme information. Alors, vous disiez tout à l'heure, je suis un électron libre, on l'aura compris, je crois, déjà. Je suis nette. vous êtes autodidacte aussi? On vous retrouve quand même à une période de votre vie, c'est après Boutte-aux-Bois, c'est ça, à Reims, ça, dans une grosse association pour le coup, c'est une institution du monde associatif, c'est la Ligue de l'enseignement.
Oui, alors entre les deux, il y a quand même eu un passage. Après Boutte-aux-Bois, j'ai travaillé pendant 10 ans à mon compte, en tant que, cette fois-ci, entreprise classique, entreprise individuelle. Et puis à un moment, même si je suis un électron libre, j'ai eu envie de me reconnecter à une équipe, au monde associatif, au partage avec d'autres. Donc j'ai rejoint l'équipe de la Ligue de l'enseignement de la Marne, où j'étais chargée de mission éducation, à une période où notamment il y a eu la réforme des rythmes scolaires, où donc j'ai travaillé avec des collectivités locales, l'éducation nationale, pour mettre en place concrètement la réforme des rythmes.
Oui.
Et puis surtout, je me suis retrouvée donc à travailler au sein de la Ligue de l'enseignement, qui est une association, on l'oublie parfois, mais qui a fêté là il y a quelques années ses 150 ans.
Tout à fait.
Qui a été créée par Jean Massé et qui a été créée notamment parce qu'il fallait le suffrage universel était arrivé, alors pas pour tout le monde bien entendu, pas pour les femmes, mais au moins
pas tout de suite
pour les hommes et pour tout le monde, mais était arrivé à une période où tout le monde n'était pas éduqué, tout le monde n'était pas instruit, et où il semblait important que tout le monde puisse aller à l'école. Donc la Ligue de l'enseignement a milité pour que tout le monde soit formé. Et donc, c'est grâce à elle, on connaît souvent Jules Ferry, mais il y a Jean Massé, il y en a d'autres. C'est grâce à elle que l'école est devenue obligatoire pour tous, avec cet accès. Donc, c'est des valeurs qui me sont importantes. La Ligue de l'enseignement, elle a joué un rôle aussi, dans quelques années plus tard, dans la séparation de l'Église et l'État. Donc, elle est porteur de valeurs de laïcité également. Des valeurs très républicaines. En ce moment, elle n'est pas la seule actrice, mais il y a beaucoup de collègues partout en France de la Ligue de l'enseignement qui forment aux valeurs de la République.
Oui, Et c'est aussi, enfin, moi j'ai des souvenirs aussi très très précis des années d'après-guerre, hein, de tout ce qui a été mis en place par le Conseil national de la résistance. Hein. On est aussi dans cette mouvance d'éducation populaire s'est ravivée aussi après l'après-guerre, au moment où il fallait reconstruire. Hein.
Donc de fait, après la Seconde Guerre mondiale, sont nés d'autres mouvements d'éducation populaire qu'on connaît ici. Il y a les Franca, il y a les CMEA.
C'est ça.
Beaucoup de structures qui forment aujourd'hui, souvent sont connues parce qu'elles forment les jeunes pour passer leur BAFA. Donc sont nés dans l'immédiat d'après-guerre aussi pour faire se rencontrer les jeunes Français et
les jeunes Allemands.
Allemands.
Et construire l'Europe.
Construire la paix, essayer de maintenir la paix.
Oui, voilà. Donc tout ça est très, très franchement d'actualité. Hein? Petite piqûre de rappel. Ok. Pour illustrer un petit peu tout ça, on va s'arrêter quelques minutes avec une nouvelle pause musicale. Et vous nous avez proposé d'écouter Marla Glenn dans un titre qui s'appelle The Coast of Freedom. On en parle après.
Understand this, I feel like there's something's going on. It's time we take a break and talk a while. Now you know there's people of this world who have needs like you and me. So let's bring our hearts together, 'cause you know what the problem is. The cost of living is the cost of love. It's the cost of living. It's the cost of freedom. Our precious land to build all worth thinking on. The what's your problem now? Don't you think you have enough? So try to open up your heart and think. Shout, sing it to the world.
Vous êtes toujours sur Bouton dans Talent Féminin Singulier et on écoutait, grâce à Juliette Chéri-Kinor, notre invitée, cette merveilleuse interprète, Marla Glenn. Marla Glenn qui vit en Allemagne mais qui est originaire de Chicago, si je me souviens bien, Juliette.
Oui, c'est une artiste américaine.
Ouais.
Qui est née dans les années 60.
Ouais.
De parents artistes qui naviguaient déjà dans le monde de la musique et puis qui a eu l'occasion de rencontrer, je pense, quand elle avait 25 ans à peu près, Nina Simone.
Nina Simone.
Et qui en est même devenue, je pense, quelque temps, son garde du corps.
Ah
donc
oui.
Assez étonnant pour une femme d'être
ah
garde
oui.
du corps de quelqu'un d'autre.
Oui.
Et moi, je l'ai découvert, Marla Glenn, je pense, quand j'étais jeune adulte. Et elle a occupé mes soirées solitaires d'étudiante à Besançon. Je mettais à fond dans la maison, le studio à l'époque.
Votre maison à l'époque. Votre maison. Alors c'est intéressant parce que Marla Glenn, elle est issue d'une famille très, très mixée. Pour le coup, hein, il y a des Mexicains, des Jamaïcains, des Afro-Américains dans sa famille. Enfin, vraiment, là, on est dans le melting pot musical et culturel.
Oui, de
l'Amérique des années 60.
Un grand métissage culturel.
Un grand métissage, hein, c'est ça. Qu'est-ce que ça te dit aussi de vous, toute cette mixité culturelle que vous affectionnez et en fait, je reviens à la question initiale de tout à l'heure. Hein. On se retrouve installé art thérapeute très bientôt, très
oui.
très très bientôt,
oui, oui.
en face de la gare de Rethel, mm-hmm. dans les Ardennes, mm-hmm. sur des principes d'économie sociale et solidaire, et des principes aussi, un choix qui est de vivre et de travailler sur le territoire où on est, le territoire qu'on a choisi et adopté pour mm-hmm. le coup. C'est bien ça?
C'est ça, oui. Moi, ça va faire plus de 20 ans. En fait, j'arrêtais pas de dire 20 ans, mais plus de 20 ans que je suis installée dans les Ardennes. Je suis venue pour le travail,
ouais.
dans un département où on dit pourtant qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, j'avais cette occasion-là d'être venue pour le travail. Et j'y suis restée malgré l'adversité économique, malgré ouais. le licenciement que j'ai pu vivre. Moi, c'est un département que je trouve être à échelle humaine. J'ai vécu à Paris au milieu de 8 millions de personnes en ayant de grandes difficultés finalement à faire des connaissances. Et depuis que je suis dans les Ardennes, eh bien, ça va tout seul. On va assez facilement participer à des événements à la ville ou à la campagne. On retrouve les mêmes personnes. Bon, j'étais aussi engagée associativement. Donc, je travaillais dans le milieu associatif, mais j'ai eu des responsabilités associatives. Tout ça m'a fait rencontrer du monde et donc découvrir qu'il y avait cette capacité à faire connaissance assez facilement, à revoir les mêmes personnes et avoir un réseau à la fois amical ou professionnel ou simplement de bénévoles. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup dans les Ardennes.
Voilà. Vous auriez pu faire le choix aussi d'aller en Ardèche ou en Lozère ou
C'est sûr qu'on parle d'héliotropisme, que les gens, notamment les Parisiens, sont très souvent attirés. Mon amie d'enfance, elle est plutôt partie du côté de Toulouse, par exemple.
Ouais.
Donc, il y a cette attirance vers le sud. Ça aurait pu être le cas aussi, de par mes origines d'Espagne et d'Algérie.
Mm-hmm.
Mais moi, il y a un côté en moi, on en parlait tout à l'heure, ma relation à la nature, il y a un côté assez sauvage. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans les Ardennes, c'est de pouvoir aller me promener en forêt sans voir personne de la journée. Et ça, c'est assez plaisant et on l'a pas forcément quand on va dans le sud et où il y a des maisons partout, il y a des touristes partout, il y a des gens partout. Donc ce côté des Ardennes, alors, quand je travaillais à Boultobois, j'étais chargée de l'accueil des touristes et je partageais avec beaucoup des personnes qui venaient. Je me rappelle à un moment, il y avait un événement autour d'André Dhôtel. Donc des personnes étaient venues du sud de la France pour cet événement autour d'André Dhôtel. Et disait, mais surtout, c'est génial, les Ardennes, ne communiquez pas trop. On a trouvé enfin un département où on peut être tranquille. Bon, certes, il faut un juste milieu, mais en tout cas, préserver ce côté nature, mais aussi espace sauvage où on peut se promener et se perdre et se trouver en même temps.
Ouais, et il faut dire et redire, notamment pour tous les auditeurs qui nous écoutent en podcast ailleurs que dans le département des Ardennes, hein, puisque... Moi, on m'a dit et répété qu'il y avait une diaspora ardennaise à travers la France qui écoutait nos émissions de Radio Bouton. Donc, il faut dire et redire aussi qu'il y a un capital naturel dans les Ardennes qui est assez exceptionnel.
Oui, oui, il y a
tout le monde ne connaît pas.
Des milieux naturels. Alors, il y a des endroits qui trinquent un peu. On peut pas s'en cacher.
Bien sûr.
Mais il y a aussi de grands massifs forestiers. Il y a des espèces de faune et de flore à préserver et préserver. Il y a la vallée de la Meuse qui va entailler le nord des Ardennes. Là, il y a une très, très belle nature dans les Ardennes.
Oui, tout à fait. Bon, voilà, ça, c'est fait. Hein, on l'a dit. On va peut-être écouter un autre morceau qui va nous parler aussi d'universalité. Hein, on en parle après ? Ok. On vient d'entendre Tomasa Guerrero Carrasco, je l'ai bien dit Juliette, dites aussi La Macanita. La Macanita, c'est le nom qui lui est induit par son père, Macano, qui était un grand chanteur de flamenco.
Ouais.
Le flamenco, pour moi, ça évoque une espèce d'universalité. Et en même temps, un ancrage dans la famille qui est très, très fort. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça?
Oui, pour moi, alors, c'est pas une musique qui m'a été transmise directement, parce que le flamenco, on a tendance à dire que c'est plutôt l'Andalousie. Mm-hmm. Moi, ma famille était originaire de Catalogne. Mm-hmm. En revanche, j'ai eu l'occasion, quand j'étais adolescente, au lycée, de faire un voyage scolaire mm-hmm. en Andalousie. Et un soir, avec les autres camarades de classe, avec les enseignants, nous sommes allés faire une soirée de flamenco. Découvrir. Et là, ça a été vraiment... Alors, c'était une soirée... je pense que c'était quelque chose d'assez populaire. C'était pas un spectacle en soi. C'était une sorte de bar où il y avait... Et j'ai été assez marquée par cette culture à ce moment-là, par le chant. Et c'est peut-être là que je rejoins ce côté universalité. Je pense que ce qui m'a marquée, c'est cette espèce de chant et de musique qui traverse les générations, traverse le temps, peut-être même l'espace... Et m'a touchée assez fortement.
Mmh. En même temps, c'est vrai que le peu que je connais de cette culture, on voit bien les liens de transmission très très directs entre les générations. Hein. Les enfants sont chanteurs ou musiciens parce que les parents sont eux-mêmes chanteurs et musiciens. Jouent ensemble beaucoup. Hein. On joue ensemble. Mmh. On joue ensemble. On partage vraiment.
Hein. Oui, alors c'est vrai que c'est une culture gitane aussi. Et c'est mmh. Les gitans n'ont pas forcément un territoire. Mmh. La famille mmh. devient le territoire.
C'est ça.
Donc forcément, on y est très lié. Les liens sont assez forts. La transmission est assez forte et elle dépasse les frontières, les limites. C'est mmh. intéressant.
Mmh. Pour revenir à votre travail d'art thérapeute, ce côté transgénérationnel et les liens qu'on peut établir entre... Est-ce que je vais le dire autrement, est-ce que l'art thérapie est un outil intéressant aussi dans tout ce qui est thérapie familiale?
Oui, alors pour l'instant, moi, c'est pas spécialement la voie que je prends parce que j'ai pas eu ouais. d'occasion ou d'opportunité, mais je sais qu'il y a des art thérapeutes qui travaillent l'attachement, qui travaillent aussi la dynamique familiale.
Ouais.
J'ai un art thérapeute que j'avais rencontré en Belgique et qui lui est pluriculturel aussi parce qu'il est anglais, vivant en Espagne, parlant français, intervenant ouais. en Belgique. Travaille avec des familles et travailler des liens. Je me souviens même d'une anecdote qu'il racontait où, grâce à un travail qu'il avait mené à partir d'une fresque que toute la famille avait fait collectivement, oui. la place de chacun s'était redéfinie et la femme, la mère dans la famille avait eu l'occasion de dire, elle était femme s'occupant de ses enfants, femme au foyer, avait eu l'occasion de dire qu'elle, elle trouvait que sa place n'était pas forcément justifiée dans la famille, elle manquait de reconnaissance. Et son mari, suite à cet accompagnement art thérapeutique, son mari s'était dit, mais c'est vrai qu'elle a aussi travaillé. Et donc, il a décidé comme ça de valoriser tout son temps de travail de mère au foyer et de prendre dans l'argent familial et de lui attribuer ça comme un salaire dû depuis toutes ces années-là.
Mm-hmm.
Et donc, bon, c'est un exemple parmi
c'est
d'autres.
C'est un exemple, ouais.
Il y en a bien d'autres, mais oui, l'art thérapie, elle sert aussi à, en se dégageant du lien direct et en ayant l'écriture qui permet le récit de vie, le théâtre qui permet de jouer des choses, le clown qui permet de porter en dérision, d'aller chercher la poésie, ça permet de travailler des conflits familiaux, des secrets familiaux, ou de générer, parce qu'on voit toujours les choses comme problème, ou de resserrer les liens tout simplement et d'être dans une dynamique positive.
Donc c'est quelque chose que vous ne vous interdisez pas dans votre future pratique d'art
thérapeute ? Oui, moi je suis... J'aime pas trop me contenir sur quelque chose. C'est aussi pour ça que j'ai pas choisi d'avoir une seule pratique parmi toutes les pratiques.
Mm-hmm.
Par exemple, quand je me suis formée pour faire mes stages, je m'étais dit, tiens, je vais peut-être aller faire des stages dans le domaine de la psychiatrie, où j'avais même envie d'aller en milieu pénitentiaire. Et puis finalement, c'est le monde des personnes âgées qui est venu à moi. J'ai fait des stages dans des EHPAD, je m'y attendais
ouais.
pas. J'ai découvert ce public et... Voilà, c'est pour ça que je reste ouverte à toute pratique et c'est les personnes qui viendront à moi qui vont m'amener avec elles quelque part. Donc j'ai tout intérêt. Dans mon domaine de formation, on pratique une thérapie qu'on dit humaniste et existentielle et on est beaucoup sur cette idée d'être ouvert à ce qui se présente. Mmh. On n'est pas dans l'attente de quelque chose,
mmh.
mais on est sur cette position un peu comme à la proue d'un bateau. Et puis, ce qui se présente parmi les personnes, parmi les situations, il faut être prêt à l'accepter. C'est un peu fragile et précaire comme situation, parce que ça nécessite de s'adapter, d'improviser. Mais c'est un peu cette posture-là que j'ai. Donc, en fonction de ce dont auront besoin les personnes qui viendront me voir, je les accompagnerai au mieux.
D'accord. Vous venez d'évoquer votre travail dans les EHPAD. Et j'avais envie de vous entendre lire un de vos textes qui s'appelle « Mamie, grand-mère », c'est ça ?
Oui.
On écoute ce texte.
Mamie, grand-mère, vieille dame, t'es là parce que t'as glissé sur le macadam? Ou parce que toute seule, t'avais trop le vague à l'âme? On dit parfois que tu fais trop de ramdam. Moi, je me dis que c'est parce que t'as toujours la flamme. Alors oui, aujourd'hui, je prends mon calam pour te rendre hommage, sage-femme. Et si tu t'envolais comme une belle dame, je te suivrais sur toute la gamme. Je sais bien que t'aimes pas le son du tam-tam. Alors, viens, on va se faire un croque-madame, miam-miam. Vieille dame, mamie, grand-mère, oh là là, il y a de la rumba dans l'air. On vient de te trouver les quatre fers en l'air. Aide-soignante, médecin, infirmière, tous, ils t'ont nom redressé et peu fier. Tu ne sais pas comment tu t'es retrouvée par terre, le bras cassé et les lunettes à l'envers. Tes idées, tes pensées sont maintenant éphémères et tout le monde croit que tu racontes des chimères. Mais... je sais que t'as la carrure d'une roche-mère. Allez, viens, on va faire nos commères, peu cher. Grand-mère, vieille dame, mamie, pour toi, la nuit est le jour et le jour la nuit. Tu trottes dans les couloirs passé minuit. Tu entres dans les chambres comme un tsunami. Tu chantes, tu cries, tu ris, tu te fais toute une vie. Ce serait peut-être pour retrouver tes amis qui ont déjà pris le train pour le paradis. Quand l'infirmière surgit, tu fais valser toute sa chimie. Qu'elle te laisse tranquille avec ton anémie. On n'en fera pas une pandémie. Allez, viens, on va faire du rififi, pardi. Mamie, grand-mère, vieille dame. Oh, t'es partie, petite mère. Eh ben, paix à ton âme.
Merci, Juliette. Ça sent l'empathie et ça sent le vécu, hein, cette histoire-là.
Oui, alors, quand j'ai commencé à partager ce texte, certaines personnes pensaient qu'il s'agissait de ma grand-mère. Mais non, il ne s'agit pas de ma grand-mère. C'est peut-être un peu une grand-mère archétype ou une grand-mère universelle. Mais c'est un texte qui m'est né de fréquenter des grand-mères dans les 4-5 maisons de retraite où je suis intervenue en art-thérapie ou pour faire du bénévolat.
Oui. Et donc, ce n'est pas un portrait de grand-mère passive?
Oui,
qui
alors.
Est en attente.
J'ai côtoyé des grand-mères qui étaient 10 ans. Voilà, on dit d'elles qu'elles souffraient de troubles cognitifs ou qu'elles étaient atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et c'est vrai que ça fait peur. C'est encore des troubles qui font peur. Une des pratiques, une des postures de l'art-thérapie, c'est d'essayer d'entrer dans le monde de l'autre et pas d'imposer son monde. Donc là, c'est ce que j'ai souvent fait. Je pense à une dame qui était d'origine italienne et qui n'arrivait plus forcément à parler français. Moi, je ne parle pas du tout italien, mais j'arrivais à entrer en relation avec elle. Je baragouinais de l'espagnol, du français. J'étais beaucoup dans la synchronisation de ce qu'elle pouvait dire, de ses gestes, de son intonation. Et c'est des moments où la relation se crée sans forcément qu'on sache ce qu'on se racontait toutes les deux. Donc, c'est moi qui faisais l'effort d'aller dans son monde. Et je pense que c'est comme ça qu'on a appris à vivre des choses ensemble à certains moments de cet accompagnement.
Ça veut dire aussi qu'on n'a pas peur de l'effet miroir de son propre vieillissement?
Ça veut dire ça aussi, ouais. Ça veut dire que c'est aussi assumer, affronter. On est dans une période assez étonnante, je trouve, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui meurent très jeunes. On retrouve ça avec des personnes qui sont touchées par le cancer, entre autres, des enfants, des jeunes adultes. Et puis en même temps, toute une partie de la population qui vit très, très, très âgée et qui se questionne beaucoup. Et là, je reviens à cette idée d'existentiel sur le sens de la vie, l'utilité de la vie, quand on a parfois 96 ans passés, qu'on est dans une maison de retraite, qu'on est dépendant des autres pour agir. Il y a cette question, ce contraste. Mais en même temps, moi, je pars du principe que je prends ce qui vient. Comme d'autres, j'ai des doutes à des moments où je me dis « Oh là là, mais ça fait déjà 15 ans qu'il s'est passé ça, que le temps passe vite !» Et puis d'autres moments où je me dis à chaque période de la vie, il se passe des choses. J'ai eu des moments où, des moments de doute, où on se dit, mais est-ce que ça vaut le coup quand on a des licenciements, quand on vit des burn-out, des choses comme ça, dans ces situations économiques précaires des générations d'aujourd'hui qui ont du mal avec l'emploi. Et après, je me dis, chaque période a son lot d'apprentissage, son lot de leçons de vie. Et puis, la rencontre avec les autres générations, même les petits comme les plus âgés, je trouve que c'est intéressant de faire de l'intergénérationnel.
Tout à fait.
De pas rester coincé dans sa génération, avec sa bande d'amis, avec ses frères et sœurs. Moi, j'aime bien cette posture un petit peu de papillonner, de pouvoir être avec des enfants, des adolescents, des personnes âgées.
On l'a dit dans Art Thérapeute, IA Thérapeute. Donc, est-ce que, comme pour d'autres catégories professionnelles de thérapeutes, vous êtes soumis à une régulation?
Alors oui, les art-thérapeutes, en ce moment, il y a plein de formes d'art-thérapie, il y a des formations d'art-thérapie à la rigueur. Il y en a qui se disent art-thérapeute après 3 semaines d'une formation par correspondance. Donc je ne parlerai pas de cette forme d'art-thérapie-là, mais les personnes qui se forment comme moi dans la durée 2, 3, 4, 5 ans sont tenues de suivre une certaine déontologie et d'être accompagné par un superviseur, donc par des personnes qui sont formées, agréées, habilitées à accompagner leurs collègues thérapeutes. Et tout d'un coup aussi à se décoller de la relation. Quand on accompagne quelqu'un en tant que thérapeute, on peut être confronté, et c'est souvent le cas en fait, puisque les personnes qui viennent nous voir, très souvent, on se rend compte qu'elles ont des parcours de vie ou des problématiques qui sont liées à notre propre parcours
de vie.
Donc l'idée, c'est aussi de décoller de la problématique et de pas ajouter dans la problématique de la personne la problématique qu'on a. On appelle ça le transfert et le contre-transfert. Donc avec la personne qui assure la supervision, c'est de prendre du recul, d'observer les choses, d'avoir quelqu'un qui fait tiers et qui observe ce qui se passe dans cette relation-là.
D'accord. On a encore le temps de s'écouter un petit clin d'œil. On va s'écouter un petit clin d'œil d'une autre Juliette. Allez.
et sa voix qui zézeille susurre à mon oreille les plus sales conseils déguisés en merveille. Un petit diable veille au fond de ma bouteille, me fait impératrice et me donne un royaume de sentiments factices, d'ivresse polychrome. Et pour guider mes pas, j'ai de nobles amis, Lady Margarita et Miss Bloody Mary. Et quand mes courtisans me promettent le ciel, je les crois vraiment quand ils disent que je suis belle. Mais ce ne sont que des ombres, et mon royaume sombre dans un méchant sommeil au fond de ma bouteille. Je connais que trop le nom des assassins, Seigneur de Curaçao et Monsieur Marasquin. Et quand mes courtisans me brûlent à petit feu, je les crois encore quand ils disent que j'ai vu mieux. Mais le miroir se brise et je vois sans surprise une petite vieille au fond de ma bouteille. Diable goguenard, un Satan dérisoire qui enfonce au hasard les clous du désespoir.
Un petit diable veille au fond de ma bouteille.
Au diable ce bavard et ses belles histoires. Au diable ses merveilles et ses mauvais conseils.
Un petit diable veille au fond de ma bouteille.
Comme si j'allais croire ce que ce diable noir susurre à mon oreille de sa voix qui
Eh bien, les Juliettes, on va se quitter là hein, pour aller voir les petits diables qui veillent au fond de nos bouteilles. On se dit ça, Juliette hein?
Eh oui, ça sera très bien comme ça aussi. Une petite bière ardennaise, c'est ça
par exemple. Merci en tout cas de ce bon moment. Merci de ce moment de rentrée. C'était Talent Féminin Singulier, c'était la rentrée et on a passé un bon moment avec Juliette Chérikinor. À bientôt, les amis. Sur Bouton.
Talent féminin singulier. Une émission où les Ardennaises sont à l'honneur. Entre rêves aboutis, projets rondement menés et parcours semés d'embûches, découvrez le destin de ces femmes qui ont des choses à dire et à faire. Rendez-vous avec Carole tous les 3e samedi du mois de 11h à midi sur Bouton.
Que faire de l'énergie que je perds?